Gloire au nom du Seigneur, ça me fait plaisir d'être encore là aujourd'hui.
Amen. On est content de t'avoir aussi.
Puis, chaque fois qu'on vient se réunir, c'est dans le but de nous fortifier, de nous affermir dans le Seigneur, qu'on puisse grandir. Ça se peut qu'on grandisse pas quand on vient. Ça se peut qu'on soit pas fortifié. Ça se peut que ça nous touche pas. Ça se peut même qu'on en vienne à avoir un dédain des réunions. Ça se peut. Mais quand ça arrive, il faut trouver la cause. Parce que Dieu veut nous rencontrer. Parce que c'est pas des hommes qu'on vient rencontrer. Que je sois debout dans cette église ici, dans cette réunion ici, ou que je sois debout dans une autre église, ça change rien du fait que c'est Dieu qu'il faut que je le rencontre. Puis si je rencontre pas Dieu dans une réunion, j'ai un problème. C'est parce que je regarde pas à bonne place. Parce que Dieu, il est là. Puis Dieu parle. Dieu parle. Des fois, l'ambiance est différente de la façon dont il parle, tout dépendant qui prêche, tout dépendant qui conduit les chants, quels chants qui sont choisis. Ça change l'ambiance. Mais en réalité, c'est pas une ambiance qu'on doit rechercher. C'est la présence du Seigneur. Puis si on vient pour le rencontrer et on se connecte sur lui, l'ambiance compte pas parce que Dieu va parler. Puis là, on va sortir de là fortifié, édifié. Puis même solidifié, parce que le message, quand Dieu donne un message, Dieu parle pour nous expliquer les choses, puis à travers de ce message-là, il veut nous révéler des pensées, il veut changer notre pensée, puis il veut qu'on se fortifie avec ces pensées-là. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est venu, premièrement, pour venir te louer, t'adorer, te glorifier ce matin, puis c'est ce qu'on a fait. En gardant nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur, pour te louer puis t'adorer. Mais aussi, on veut les garder en toi pour être à l'écoute de ta voix quand tu vas nous parler par ta parole, Seigneur. Instruis-nous, parle-nous par ta parole, qu'on peut sortir d'ici fortifié. Je te remercie de ce que tu vas mettre dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue encore l'étude que j'ai commencée, voilà. Ça fait quand même 2 ans que j'ai commencé à prêcher ce sujet-là, mais vu que j'ai prêché à temps partiel sur d'autres choses en même temps, puis je prêche rien qu'une fois par mois, mais on est quand même rendu à la 15e leçon du sujet « Le combat spirituel ». Pour moi, en tout cas, ça me fait du bien d'écouter ce que j'enseigne. On devrait continuer à s'encourager puis se parler de ça tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui doit être mis en pratique à tous les jours. Puis si on l'oublie, on ne peut pas le faire. Là, on tombe à vivre notre vie normale, notre vie humaine, là, puis on réagit en humain. Si on veut apprendre le combat spirituel, c'est qu'il faut rentrer dans la pensée de Dieu, selon la pensée de Dieu qui est selon le monde spirituel, puis commencer à réagir tous les jours face à ces oppressions-là qui nous attaquent. Dieu, il y a une armée qui s'élève, une armée qui s'avance, qui marche, puis qui avance, qui marche, qui avance, dans le combat, puis on a le Seigneur en avant de nous qui avance au-devant de nous et qui nous fait remporter les victoires en autant que l'Église se lève, elle marche puis elle avance dans le combat. Nous avons déjà la victoire. La Bible nous le dit parce qu'on a mis notre foi en Jésus. Ça, il faut se le rappeler continuellement parce que des fois, on se sent battu, on se sent en défaite. Même quand t'es en défaite, même si ta conscience t'accuse, même si t'as des sentiments de culpabilité, des sentiments qui essayent de te ralentir, tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé, tu te sens pas la présence de Dieu parce que quand tu marches par les sensations, ça c'est un piège, c'est un danger parce qu'on marche plus par la foi dans les choses de ce que Dieu a déclaré. Fait que faut apprendre à marcher dans la foi, frères et sœurs. On est en guerre, on est en combat, puis je le sais que je vais en avoir des choses qui vont... Je vais avoir des sensations, je vais avoir ma propre pensée qui va m'accuser, qui va m'attaquer. Il va y avoir les esprits qui en rajoutent. Il va y avoir mes propres désirs, mes propres passions, mes propres sentiments, mes propres émotions qui s'élèvent contre la volonté de Dieu ou contre la parole de Dieu qui sont le chemin à suivre. C'est pas nos sensations, c'est pas nos pensées, c'est pas nos émotions, c'est pas ce que les autres disent qu'il faut que j'écoute. Faut que j'apprenne à écouter la voix de Dieu qui me parle par sa parole puis qui veut me fortifier dans sa parole, puis là je vais être apte à combattre, à résister puis à faire fuir peu importe comment je me sens. Puis après ça, la paix revient, la joie revient, l'amour est là, puis la communion avec les frères et sœurs, puis la présence de l'Esprit de Dieu, on va la ressentir à nouveau. Romains 16, 20 nous dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » C'est pas loin des livres, ils ont tout écrit en l'air dans les acétates, tous les versets. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est ça qui est la question. C'est quand ça, bientôt? Quand est-ce, bientôt, que Satan va être réellement écrasé? Ou est-ce qu'on n'aura plus besoin de se casser la tête avec lui? Quand on va être dans notre corps glorifié? En attendant, tant que Jésus n'est pas revenu, il n'ira pas Satan pendant 1000 ans pour qu'il n'influence plus le monde. Tant que Jésus va revenir, là, ça va être réglé. On n'aura plus besoin de penser au diable. Mais tant qu'on va vivre sur cette terre, dans notre corps de chair actuellement, tant que Jésus n'est pas revenu, le diable est encore là, même si Jésus nous a assuré que nous étions déjà vainqueurs. Mais le diable est encore là, puis il n'a pas été enlevé de la planète, comme certains chrétiens croient que nous sommes déjà dans le règne de 1000 ans, puis qu'on peut lier, le diable n'a plus besoin de s'en occuper, il est déjà lié, puis on n'a pas, tu sais, comme si on pouvait se laisser aller, puis profiter de la vie, puis des plaisirs de la vie, sans se soucier de lui, jamais. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Puis ça a été dit dans les Épîtres, qui était après la mort de Jésus puis sa résurrection. Puis si ça dit que le diable est encore là, en train de rôder, ça veut dire qu'il est là. Il n'a jamais été lié puis enlevé de la planète. On n'est pas encore dans le règne de 1000 ans. Puis il agit pleinement, avec une pleine efficacité, sauf qu'on peut le bloquer, on peut le bloquer ses attaques, on peut contre-attaquer, on peut se défendre. Il nous a pas laissé sans armes, le Seigneur. Il veut qu'on apprenne la guerre, le combat spirituel, pour qu'on avance, puis qu'on l'oublie pas, qu'en sortant de l'Église, là, je vais être dans le combat spirituel. Même pendant dans la réunion de l'Église, vous pouvez être dans un combat spirituel. Pas après, même pendant une réunion, dans votre esprit, pendant que ça sera le temps de louer Dieu, qu'on n'est pas là, on n'est pas connecté, on pense à notre problème qu'on a vécu cette semaine, on pense à notre dingue qui est dans le fourneau, on pense à toutes sortes d'affaires plutôt que se connecter puis faire ce qu'on a à faire. Quand c'est le temps de louer, frères et sœurs, le diable essaye de nous distraire pour nous empêcher de louer. Quand c'est le temps d'écouter le message, il essaye de nous distraire pour qu'on n'écoute pas, pour qu'on pense à d'autres choses. Puis on a sorti de la réunion qui est à l'endroit pour nous avertir de toutes les choses, puis on a tout oublié parce qu'on n'a rien compris. En réalité, peut-être que rien ne nous intéressait aussi. Puis on a tout pris à la légère. Puis à cause qu'on a pris à la légère, on va être loin de le mettre en pratique. Puis si on ne le met pas en pratique, on ne marchera pas dans la victoire. On n'aura pas de victoire. Les victoires ne se font pas tout seul. Une guerre ne se gagne pas tout seul. Dieu nous a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit victorieux. Il est mort sur la croix. Il nous a envoyé son esprit. Il nous a pardonné pour qu'on puisse le recevoir parce qu'on l'a accepté. Il nous a pardonné, on a pu le recevoir. Il nous a laissé sa parole dans un livre. Tout est là. On a des réunions pour s'encourager, pour être rempli du Saint-Esprit quand on loue le Seigneur, des enseignements pour nous expliquer comment ça marche, puis nous équiper de toutes sortes de pensées pour nous aider à aller de l'avant. Des fois, on a des encouragements des frères et sœurs. Puis là, on avance, on est en guerre. Faut pas se laisser dérouter de cette vision-là. Je suis en guerre pendant la réunion pour garder ma vie dans ce que j'ai à faire. Je vais sortir d'ici, je vais embarquer dans mon auto, là je vais avoir un gars qui me coupe avec son auto, là je vais commencer à réagir charnellement, parce que l'esprit du mal va me dire des bêtises dans mon esprit, puis je vais être prêt à les lancer au gars, puis à lui montrer le poing, puis à sortir dehors, je vais lui donner une coupe de claque à ses oreilles. Ça, c'est se laisser aller selon la chair, puis d'écouter l'ennemi. Mais si j'écoute Dieu, je suis déjà prêt spirituellement, le gars me coupe. Bénis-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Hallelujah! Là, tu viens de remporter une victoire. L'ennemi voulait se servir de ça pour t'amener à pécher. Puis ça t'amène une bénédiction de Dieu dans cette situation-là. L'ennemi, il n'a même pas d'emprise sur toi. Il peut plus t'attaquer. Il n'a pas réussi à s'infiltrer dans une réaction charnelle. T'as pas rien à confesser pour demander pardon après, puis là, être libéré de ses effets. Il n'y a même pas eu d'emprise sur toi. Fait que là, la bénédiction est sortie. Fait qu'il va s'arranger pour qu'il y en ait de moins souvent des coupures par en auto, parce qu'il veut pas que tu bénisses le monde. Commençons à réagir spirituellement, puis vous allez peut-être voir qu'il y a moins d'opposition dans votre vie. Parce qu'il va y avoir peur des effets positifs qui pourraient sortir de l'attaque. En attendant, frères et sœurs, là, comme je viens de dire, bientôt Satan va être écrasé. Ça veut dire, consolez-vous, mais il est encore là. Puis en attendant, on doit se défendre contre ses attaques. Le titre du message aujourd'hui là, dans le combat, c'est la subtilité des attaques. Quand c'est subtil, là, ça veut dire ça se voit quasiment pas, là, c'est léger, ça paraît comme inaperçu. T'es attaqué, tu n'as même pas remarqué. Quand la Bible a dit qu'on est en guerre, nommez-moi, levez votre main celui qui a déjà vu le diable en personne. Pas de main s'élever. Qui a vu un démon en personne? Un de ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ça peut arriver qu'on ait vu certains effets d'esprits méchants. Ceux qui ont ressentent des peurs, qui sont des attaques de l'ennemi, ou qui sentent des angoisses, des tourments, ou être rendus malades à cause d'un esprit qui nous attaque, ou si vous aviez consulté des choses défendu par Dieu avant d'être chrétien, puis vous avez joué au Ouija ou des affaires de même, puis là, vous avez peut-être senti qu'il était là, ou entendre des bruits suspects, là, qu'il n'y a pas de raison, puis que tu entends marcher, puis ça se peut même dans tes rêves que tu aies déjà vu, senti au moins qu'ils sont là. Mais la majorité du temps, tu ne verras même pas venir l'ennemi, puis il t'attaque. Ça commence dans tes pensées. On va en voir des points où ce qui nous attaque. Il faut apprendre à se défendre, frères et sœurs. Dans Éphésiens 6, on n'a pas à lutter contre les humains. On a à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, ça a été écrit après la résurrection de Jésus. Satan, il est encore bien là. Il dit, vous avez à lutter contre ça. À cause qu'ils sont là, dans le monde invisible, ça dit des esprits méchants dans les lieux célestes qui sont là, dans le monde invisible. À cause qu'ils sont là, c'est là qu'il faut lire l'autre verset après. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Pour pouvoir résister et être ferme, pour devenir résistant aux attaques, puis marcher avec fermeté, on a besoin des armes. Tu peux pas rester ferme spirituellement, puis tu peux pas résister spirituellement si t'es pas équipé des armes de Dieu. Si on l'oublie, cela, là, puis demain, tantôt on sort, puis on oublie de penser aux armes de Dieu, puis la puissance de Dieu, puis l'autorité du nom dans le nom de Jésus, puis notre position en Jésus-Christ. Puis si tu as tout oublié ce que tu es en tant que chrétien, tu vas sortir d'ici, il va te rentrer dedans toute la semaine, puis tu n'auras rien vu. Puis tu n'as rien gagné comme victoire non plus, parce que tu vas revenir autant découragé la semaine d'après. Parce que c'est des attaques qu'on vit toute la semaine. Le diable, en passant, il connaît tous vos points faibles. Puis il vous attaque toute la semaine dans vos points faibles. Mais si on ne veut pas venir les coups, parce qu'on ne s'équipe pas, on ne peut pas devenir ferme. Je ne parle pas de dire être ferme que savoir vous êtes sauvé. Ça, oui, vous pouvez être ferme puis savoir que vous êtes sauvé. Je ne parle pas de la fermeté, savoir êtes-vous sauvé ou pas sauvé. On le sait qu'on a accepté Jésus, on est sauvé. Mais ferme dans le sens de ne pas succomber dans les tentations, dans les épreuves, dans les attaques, dans les oppressions. Succomber à péché, le but de ça, c'est que nous faire pécher. Là, quand on se met à maudire, on se met à parler dans le dos, on se met à critiquer, on se met à mentir, on se met à réagir de toutes sortes de manières qui attristent le Saint-Esprit, puis on obéit au diable, fait qu'il y a un accès dans notre vie, où on est encore lié par lui. Puis tant qu'on ne demande pas pardon, frères et sœurs, on reste lié. Un chrétien qui ne demande jamais pardon, il est lié pas à peu près, puis il s'en rend même pas compte. Il a un accès tout grand ouvert pour tous ses péchés là dans sa vie, puis l'ennemi, lui, il rentre, puis il sort, puis il en profite, puis il met toutes sortes de mauvaises pensées dans la tête, puis la personne se livre à toutes sortes de mauvaises paroles. Son langage ne peut pas être sanctifié, ni ses actions ne peuvent pas être sanctifiées si ses pensées ne le sont pas. Fait qu'il faut commencer, frères et sœurs, à réaliser, il faut faire le ménage dans nos pensées, puis pas laisser l'ennemi déposer quoi que ce soit de mauvais. Puis là, après ça, on va être capable de réaliser, wow, j'ai une mauvaise pensée qui vient de me rentrer dans la tête, qui vient d'un de ces esprits méchants, d'un Dieu céleste. Il me shoot des pensées, arrière de moi, Satan. On chasse la pensée automatiquement à mesure, vous ne serez pas défaite de la semaine. Vous allez rentrer ici la semaine d'après encore dans la victoire puis dans la joie du Saint-Esprit, parce que vous avez conservé votre communion. Mais si on n'a pas réalisé, on pêche, puis de semaine en semaine, on revient sur un down, démoli, défaite, puis on n'a plus la joie du Saint-Esprit, puis on n'a plus sa paix, parce qu'on a plein de péchés qu'on a faits, qu'on n'a pas confessés, on ne peut pas goûter sa paix et sa joie. Pour la garder, il faut que tu résistes contre le péché, il faut que tu résistes à l'ennemi, il faut que tu le chasses. Puis là, tu restes, tu demeures dans la victoire.
C'est comme, j'ai dit hier, j'ai tombé dans le bain. J'ai tombé dans le bain, puis je m'ai fait mal. Puis là, j'étais toujours, hier soir, là, puis c'était dans la tête, là, ça me disait, tu me dis, c'est une excuse, dis à ton mari que t'as mal. Pour pas y aller.
C'est ça.
Oh, c'est
ça. Ça n'est une attaque,
là, ça. Après ça, j'ai commencé à avoir mal à la cuisse, puis tout, j'ai dit, non, il n'y aura pas. J'avais dit, va y aller, ça finit là.
Oui.
Et là, j'avais en tête ça. Je disais à Pierre que t'as trop mal pour y aller, que t'as mal dormi,
là, l'ennemi nous met des excuses pour pas faire d'autres choses que Dieu nous aura demandé, comme d'être là, à l'église. Fait qu'il va nous en mettre des excuses par rapport à ce qu'on vit. Mais si on écoute nos mauvaises pensées, on se fait enjamber, on se fait faire des jambettes à tout bout de champ, puis on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. On se trouve à avoir moins de fruits dans notre vie, puis après ça, mais on se sent plus faible. Parce que quand on manque une réunion, si, je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais pour moi, puis pour les chrétiens, quand tu sors d'une réunion, puis que tu as été connecté là, dans la louange, puis que tu es attentif dans la prédication, tu sors fortifié. Ben, si l'ennemi réussit à t'enlever de ne pas être là aux réunions, ben, tu vas rester faible parce que tu étais déjà affaibli de ne pas être là, puis la semaine tu vas encore une semaine à marcher dans la défaite, puis c'est un down. Sont là comme des points de ressourcement. C'est comme si tu veux brancher ton auto pour charger la batterie, parce que c'est un auto électrique qui marche à batterie, il faut que tu charges ta batterie. Si tu négliges de la charger, puis tu penses, oh, ben, je pense que je vais être capable de me rendre demain, mais si ta batterie est à terre, tu ne te rendras pas. Faut que tu te charges ta batterie. Mais spirituellement, Dieu a donné des réunions dans le but qu'on recharge nos batteries spirituelles. C'est biblique. Là, pourvu qu'on a fait face à tous ces esprits-là qui sont là dans les lieux célestes, là, qu'il faut pas que j'oublie qu'ils sont là. Ils étaient là il y a 2000 ans, que Paul a dit, puis ils sont encore là aujourd'hui, puis ils nous connaissent, ils connaissent nos points faibles. Toutes les attaques de pour l'étude d'aujourd'hui, là, je vais nommer toutes les interventions d'esprit, là, comme des attaques, des oppressions, des ci, des ça. Je vais nommer ça, c'est une attaque. Que ce soit une oppression, une tribulation, une tentation, une épreuve, peu importe les différents noms, c'est toutes des attaques. S'ils t'attaquent dans tes pensées ou dans tes émotions ou dans les agissements, on va en voir des sujets d'attaque que l'ennemi utilise. Puis là, la question qu'il faut se poser. Comment vérifier, comment savoir si je suis en train de me faire attaquer? Comment que je le sais que je suis en train de me faire attaquer? Si je vous pose la question, avez-vous été attaqué cette semaine? Ou dans le mois passé? Ou dans l'année passée? Là, on va réussir à sortir une ou deux idées. Mais il y en a bien plus qu'une ou deux que le diable nous a attaqués. Il nous attaque plusieurs fois, tous les jours. C'est parce qu'on ne le voit pas. C'est subtil. Quand on va voir les différents exemples qui sont écrits dans la parole, vous allez dire, wow, j'aurais jamais pensé que Dieu appelle ça une attaque et que j'ai à combattre là-dedans. La première attaque, ah oui, avant, je vais vous dire, à date, là, vous avez vu les autres semaines antérieures, j'ai parlé de différents esprits. Des esprits de dispute, des esprits séducteurs, des esprits impurs, l'esprit de rébellion, l'esprit de mensonge. Ça, c'est comme, j'ai fait 5 messages sur ces 5 types d'esprits, ça, c'est les gros morceaux. Mais il y en a plein de petites idées où ce que on pourra nommer esprit de d'autres choses qui nous attaquent, mais qui sont comme, ils découlent de ces grandes lignes-là. Mettons un exemple, l'esprit qu'on va voir, là, attaqué par le désir de se venger. Tu vois pas qu'il y a un esprit de vengeance nécessairement, mais même si tu le vois pas dans la Bible, on va voir un exemple que c'est arrivé. Et Jésus dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il dit ça à ses disciples. On va aller lire le passage dans Luc 9, le verset 51. La première chose que je veux qu'on réalise dans ce verset-là, avant d'aller le lire, la première phrase, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, ça veut dire que cet événement-là s'est produit quasiment avant que Jésus soit assassiné. Ça veut dire que les disciples qui étaient là, ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient avec Jésus. Puis qu'ils n'avaient vu des miracles, des signes, des prodiges dans leur vie. Ils n'avaient vu des Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils n'avaient entendu des paroles que Jésus leur a dit. J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Réjouissez-vous pas que les esprits vous sont... Ils n'ont eu des paroles pour leur dire qu'en tant que disciple du Seigneur, t'es au-dessus de toute attaque. T'es pas au-dessus de toute attaque. T'es au-dessus de tout esprit qui veut t'attaquer. Mais faut que tu ailles chercher ta victoire à chaque fois. C'est pas à cause que Jésus nous a donné l'autorité de marcher ces démons que tu es toujours en train de marcher dessus. Ils peuvent continuer à te piétiner à tous les jours, puis tu t'en rends même pas compte. Luc 9, 51, Jésus était avec ses disciples, presque au moment où il devait partir. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, et l'envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Fait que là, en passant, il se trouve à passer dans Samarie, puis là, il y a une bourgade voisine, c'est un village alentour de la Samarie, puis il passe là, puis il dit, « Tiens, on va aller louer un logement pour passer la nuit, arrêter au motel. » Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les Samaritains et les Juifs, ils n'étaient pas « friendly ». Ils n'étaient pas amis, parce que les Juifs traitaient les Samaritains d'impurs. Parce que les Samaritains, c'était du monde juif, marié avec des gens païens, puis là, c'est à cause de ça, c'est les enfants, mais pas être les enfants, tout le monde t'a considéré impur. Fait que, il y avait comme une hostilité qui s'était développée entre les Samaritains et les Juifs. Mais, on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Ça veut dire, il s'en va à Jérusalem, toi t'es un Juif, on veut rien savoir de toi. Passe ton chemin. C'est insultant. Les disciples, hey, je suis un des 12 apôtres. C'est quoi cette affaire-là, là? On a l'autorité donnée par le Seigneur. J'ai l'autorité sur tous les démons. J'ai le pouvoir, Jésus me l'a dit, j'en ai chassé plein d'esprits et de démons. Puis là, je me fais dire, on ne veut pas te voir. T'es un juif.
Comme Jésus, c'est un juif.
Oui, Jésus est un juif. Les disciples, Jacques et Jean, Jean, le disciple de l'amour, voyant cela, dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se retourne et dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Ça a l'air bien niaiseux, ça, cet événement-là, hein? C'est bien simple comme événement. Juste une petite idée de se venger. Hey, moi, je suis un disciple, je suis un apôtre, là. Puis il a peut-être guéri déjà une couple de ce village-là, là, par la puissance de Dieu. Il arrive, ils veulent même pas que j'y aille coucher, passer la nuit, puis le maître Jésus est avec nous. On est les autorités spirituelles ici. Tout est à nous. Tout le monde, la vie, soit les anges, soit les choses présentes, tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. En principe, les chrétiens, tout leur appartient, c'est juste qu'on ne l'a pas encore eu, comme remis entre nos mains, ce royaume-là, mais un jour, on va l'avoir, on va régner dessus. Mais en attendant, Jean, le disciple de l'amour, et son frère Jacques, ils ont eu un petit désir. Ça leur a donné une petite blessure dans leur ego de se faire dire non. Ça nous arrive-tu d'avoir des petites blessures dans notre ego puis ça nous fait de quoi de se faire dire non? Comment est-ce qu'on fait? Essayez de penser, quand que ça vous arrive, quelle est la réaction qui vient?
Un jour, tu vas le payer.
On peut dire, tu vois ça, un jour, tu vas le revoir, on va te le remettre. Cette idée de vengeance-là, là, c'est naturel dans le corps d'un humain. C'est pas surnaturel, c'est naturel. La seule chose, ça a l'air que le diable sait qu'on réagit facilement de cette façon-là. Qu'est-ce que le diable fait? Là, il arrive, il se fait dire non. Oups, la petite réaction humaine, naturelle, réagit dans Jacques et Jean. Mais ils n'ont pas réagi avec l'amour. Là, l'ennemi leur a mis une pensée dans la tête. On va lui envoyer le feu du ciel, puis on va les consumer. Là, il dit, demande au Seigneur, « Seigneur, tu veux-tu qu'on envoie le... » C'était naturel réagir avec un petit quelque chose, mais il aurait dû s'abstenir ou chasser la pensée qui est venue dans leur tête. Au lieu de ça, Ils l'ont eu une chance qu'ils l'ont demandé au Seigneur avant, parce qu'il aurait peut-être pu le faire. Je commande le feu du ciel sans le demander, puis là, de s'attendre à ce que le feu les consume. Puis s'arrêter peut-être ça, comme les deux témoins que la Bible dit ont le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Sauf que, est-ce que Dieu veut qu'on l'utilise? Bonne question. Je pense que non. Comment Jésus nous dit? C'est quoi les enseignements que Jésus avait dit à ses disciples? Comment se comporter s'il y en a un qui te frappe sur une joue? As-tu dit d'y redonner un coup de poing? Combattre le mal par le bien, de tendre l'autre joue, de faire du bien, de prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça, c'est les pensées spirituelles que je dois réagir, que je dois être armé dans ma tête. Faut que je réagisse spirituellement avec la pensée de Dieu. Mais l'ennemi, lui, maman, il sait mes faiblesses de mon corps, fait qu'il me met des pensées qui sont des pensées de réagir face à ma faiblesse. Là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a deux choses. Si t'entends, parce que si t'es à l'écoute de l'Esprit de Dieu, tu serais supposé d'entendre ou de sentir ou de vivre l'idée, hey, là, faut que je réagisse selon le Seigneur. Si t'es en contact, là, pis t'es rempli du Saint-Esprit, là, Tu vas être inspiré par Dieu. Puis si tu ne l'as pas sur le coup, comment réagir? Mais prendons une pause, là. Puis, Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je réagisse dans cette situation-là? Puis, donne-moi un verset dans la tête que je puisse comprendre comment je dois réagir. Si on sera en train de penser comme ça, mais il y aura bien des attaques qui seraient coupées automatiquement parce qu'on n'aura pas réagi selon ce que l'ennemi nous aura mis dans notre idée. Mais pourtant, c'était des apôtres qui marchent dans l'autorité, dans le pouvoir, puis ils n'ont vu des esprits, puis ils n'ont chassé des tonnes de copies. Mais ceux qui se demandent c'est quoi, ça c'est une annonce publicitaire. Des tonnes de copies. Mais, t'es jamais à l'abri des attaques, même 3 ans après le ministère, même 20 ans après le ministère, même jusqu'à dernier jour, le dernier souffle que tu vas donner, tu peux être encore un sujet de recevoir une attaque de l'ennemi, puis que tu dois être encore capable de te défendre jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier souffle. Comme Étienne a vécu une attaque, lui, c'est d'y enlever la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu invoquer le Père de faire descendre le feu du ciel puis les consumer. Il a réagi spirituellement dans son attaque. De quel esprit êtes-vous animé? C'est la bonne question. Là, dans ce cas-là, c'est le désir de se venger. Quel esprit qui nous anime? Ça se peut-tu qu'il y ait des mauvais esprits qui nous poussent puis qui nous animent? Jusqu'à temps qu'on réalise, puis qu'on se reprend en main, puis qu'on demande pardon, puis que là, on demande au Saint-Esprit de reprendre la place, puis mourir notre corps, puis de nous apprendre à marcher selon sa volonté. Là, c'est l'esprit du désir de se venger. Une autre attaque dans nos pensées, puis dans nos émotions. Prendre les circonstances par les sentiments et non par le plan de Dieu. Ça arrive régulièrement à tout le monde, ce contexte-là. Matthieu 16, 31, on l'a lu déjà dans l'étude, je vais le passer vite. Alors, il commença à leur dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît. Il est en train de vous expliquer le plan de Dieu, là. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Ça, c'était le plan de Dieu. Jésus était en train de prophétiser ce qui était pour arriver. C'était obligatoire que ça passe par là. Jésus est venu dans ce monde exprès pour ça. Il leur disait ces choses ouvertement. Mais Pierre, l'ayant pris à part, et ainsi de Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il se met à leur prendre. Ça n'a pas d'allure que c'était en train de dire là. Il est en train de reprendre Jésus, là, que ça nous dit. Il se mit à le reprendre, puis Jésus se retourne, puis il regarde ses disciples, puis il reprimanda Pierre. L'autre, il prend à part, mais l'autre, Jésus ne laisse pas passer ça. Il regarde les disciples, puis il reprimande Pierre devant tout le monde. J'ai pas mis le bon verset.
Non, 18.
Bon, mais ça arrive les meilleures familles. Non, mais c'est 31 à 33.
Non, mais il n'y a pas de 31 dans 16.
Non, c'est Matthieu qui n'est pas bon. Bon, c'est peut-être Luc.
C'est bon.
C'est bon? Non, c'est quoi les versets, là? Bon, 21, hein?
28.
Bon, c'est à partir du verset 21 et non pas 31.
Ah.
Excusez-le.
Ah.
21, 23. 21 en montant.
C'est 21 à 23, les versets, au lieu de 31.
C'est au verset 32, là, quel point. Là.
31, 33 n'est pas bon, c'est 21, 23.
Charge de 3, pour le 2.
C'est
21-23. Bien, c'est correct. Je vais le vérifier à la maison, mais vous avez quand même le texte à l'écran.
Oui,
alors, regardez bien ça, comment Jésus regarde Pierre. Ça, c'est le verset 33. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pierre pensait bien faire. Il pensait bien faire. Il aime Jésus. Il aime Jésus au bout. Il n'est pas question que quelqu'un fasse du mal à Jésus. Jésus, quand il a dit ça, il faut que je sois mis à mort, puis que, ainsi de suite. Il faut que je sois rejeté, puis mis à mort. Pierre, il dit, viens ici, Seigneur, j'ai de quoi. C'est pas correct, là. Il n'est pas question que ça t'arrive, je te laisserai pas faire. Je vais me protéger, moi. Il a juste écouté ses émotions. Puis ses pensées se sont développées selon ce qu'il aimait Jésus. Il voulait le protéger. Il voulait pas mal faire. Mais il a quand même mal fait. Parce que le diable, il est en train de mettre dans la pensée de Pierre d'écouter ses émotions plutôt que de bâtir sa parole sur des versets, des déclarations de la parole de Dieu. Jésus ne ment pas quand il dit « Il faut que ça arrive, que je vais être... » rejeté, mis à mort, et ainsi de suite. Faut que ça arrive. Ça, c'est la parole de Dieu. Fait que si nous, face à la parole, on réagit face à ce qu'on ressent plutôt que dire « Oui, c'est vrai, Seigneur, puis on va être avec toi jusqu'à la fin. » Voyez-vous qu'il y a une différence entre ce qui est le plan de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu révélée dans sa parole, et nos sentiments et nos émotions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des fois, on peut écouter plus nos sentiments et nos émotions que d'écouter la parole de Dieu. Puis ça fait quoi? Le diable le sait. Le diable te met une pensée. Non, jamais ça va t'arriver. On est prêt à s'impliquer, à faire le contraire de la volonté de Dieu, voulant protéger nos émotions. C'est pas de même que ça marche. Frères et sœurs, même si on a des sensations, des émotions, des sentiments, puis même notre propre volonté, ça voudrait quelque chose de contraire à ce qui est déclaré dans la parole de Dieu. C'est, il n'y en a pas question. Dieu, il dit ça dans sa parole, puis c'est ça que je vais faire. Juste un exemple de ça. La Bible nous le dit qu'il va y avoir la marque de la bête un jour. Mais advenant le cas que ça arrive demain matin, puis on est encore là. Est-ce que je veux écouter la parole de Dieu ou je veux écouter mes émotions? Là, on va avoir des émotions de peur. Ça va nous avoir la crainte. Jésus, quand il savait qu'il était pour mourir, il y a eu de la crainte, là. Il y a eu des émotions. Il était en angoisse, là. Faut pas penser que c'est le fun de mourir ou de souffrir ou de résister aux autorités de ce monde. C'est, il a souffert, puis il l'a accepté. Nous autres, si la marque de la bête, elle vient, puis la Bible est claire. Si quelqu'un, peu importe qui ce que t'es, si tu reçois la marque de la bête, t'es faite, c'est l'étang de feu pour l'éternité. Il n'est pas question qu'un chrétien qui marche pour, qui, parce qu'il aime le Seigneur puis il veut suivre le Seigneur. Il n'est pas question qu'un chrétien accepte la marque de la bête pour aucune considération. Être prêt à être subi, d'être mis en prison, d'être mis à mort, d'être prêt à aller jusqu'au bout, mais de résister à recevoir ce système-là s'implanter sur nous. Peu importe le système qui dit oui, mais c'est bien bon, puis c'est avantageux, puis tu vas aimer ça, ça va être plus facile, moins de chance. Peu importe les bonnes raisons, peu importe les sentiments. Oh, moi de bon, je vais aller chercher la marque de la bête, je vais pouvoir avoir de l'argent, je vais pouvoir nourrir mes enfants. Nos sentiments, il ne faut pas qu'ils passent avant ce que Dieu dit, parce que même si tu aurais les meilleurs sentiments, si tu désobéis à la parole, tu te fais puncher, c'est l'étang de feu pour l'éternité. Dieu n'en laissera pas passer. Si sa parole dit, au point chrétien doit l'accepter, ben, il faut que tu aies cette pensée-là, même si tu as des émotions de peur, de crainte, d'angoisse, des sentiments, faut que je protège ma famille, je vais recevoir pour les nourrir. Non. Si tu penses, faut que tu aimes Jésus en premier dans ta vie, pas tes enfants. Faut que tu sois prêt à vivre pour Jésus. Fais passer le Seigneur en premier, sa parole en premier, ta famille après. Puis si tu es prêt à désobéir la parole de Dieu, prêt à risquer ton éternité parce que tu veux sauver ta famille, voyons, à quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? La première chose, c'est de vivre pour le Seigneur, puis de rester ferme à combattre le combat. Puis si c'est ce combat-là que Dieu veut qu'on vive, c'est parce qu'il savait qu'on était pour le vivre, puis c'était dans son plan qu'on passe par là, puis il faut être capable d'aller jusqu'au bout pour rester ferme dans l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on amène à cela?
Amen.
Il ne faut pas se faire dire, arrière de moi, Satan, tes pensées, c'est rien que des pensées humaines. Une autre place que l'ennemi prend plaisir à nous attaquer, c'est quand on a le désir de bien paraître, parce qu'on convoite quelque chose puis qu'on est prêt à dire des mensonges pour y parvenir. Puis c'est l'ennemi qui a mis ça dans la tête de la personne, cet événement-là qu'on va aller lire. Et qui peut nous le mettre aussi dans notre tête, mais il faut apprendre à discerner ça puis chasser ça. Acte 5, 1. Mais un nommé Ananias et Saphira et sa femme vendit une propriété, retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste, le déposa au pied des apôtres. Puis elle lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ? Eux autres, parce qu'il y avait à leur disposition ce montant d'argent-là, ils auraient pu faire tout ce qu'ils veulent avec. Mais c'est que là, dans le désir de bien paraître, on va dire que on va en garder à moitié, puis on va dire qu'on a tout donné. On va passer pour des saints, on va passer pour du monde consacré, puis qu'on aime le Seigneur au bout. Ils ont décidé de mentir pour bien paraître. Parce qu'ils ont convoité. Mais en réalité, dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une convoitise de dire, « Oh, ben j'en ai donné à moitié, je n'ai gardé à moitié. » Il avait le droit. Il dit, « C'était à ta disposition de cet argent-là. Tu n'étais pas obligé de mentir. » Le problème, ce n'est pas le fait qu'il ait gardé l'argent, c'est le fait qu'il ait menti. Parce que si tu lis la suite de ce texte-là, ça nous dit, « Pourquoi vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur, pour mentir? » Il dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Mais dans ce texte-là, ça nous dit que c'est Satan qui a rempli leur cœur. C'est des chrétiens de nouveau, là. Mais le diable les a mis dans leur tête, garde-en à moitié, puis dit que tu l'as tout donné, tu vas passer pour un bien bon chrétien. En réalité, ils ont eu un jugement du Seigneur sur leur vie, ils sont tombés redement droite, là. C'est ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, les petites affaires qu'on vit quotidiennement, l'ennemi peut nous en mettre des choses dans la tête quotidiennement, on ne se rend même pas compte, ça passe inaperçu, mais on tombe dans plein de péchés qui fait qu'on attriste le Saint-Esprit. Le combat spirituel, là, avant de penser de combattre les démons qui sont partout ailleurs, il faut commencer à combattre celles qui nous attaquent à tous les jours. qui sont là tout le temps. Il y a d'autres esprits qui attaquent dans nos faiblesses charnelles. 1 Corinthiens 7:5. Ça nous parle que dans le mariage, même si à un moment donné dans ton mariage, tu décides de te priver un de l'autre sexuellement pour vaquer à la prière, ça nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est que d'un commun accord, si les deux sont d'accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire, ça peut arriver que tu décides de jeûner sur la sexualité avec ta femme, puis là tu dis, on va prendre une semaine, un mois, pas un an, puis deux ans, là. Oubliez ça. Les humains sont, peut-être certains sont capables de s'abstenir un an, deux ans, mais il y en a d'autres que non. Puis quand on est dans un couple, il faut comprendre l'état de l'autre. C'est Dieu qui a mis ça, cette pulsation-là, dans notre corps. Puis Dieu a fait que l'homme et la femme soient ensemble, justement, pour combler ce besoin-là. Il dit, celui qui manque de continence, Paul qui dit ça, qu'il se marie. Il n'a pas dit qu'il prie pour être délivré. Ça arrive que des gens soient délivrés. Ça arrive. Mais majoritairement, tu vas avoir à vivre avec tes désirs. Ça fait partie de la nature humaine. Dieu ne nous enlève pas notre estomac puis notre faim, là. C'est normal qu'on va avoir faim le lendemain, même après avoir mangé. On va avoir encore faim. Puis après ça, on va remanger encore le lendemain, puis on va remanger encore le surlendemain. C'est naturel. La sexualité, c'est la même affaire. Dieu peut faire mourir ça. Correct. Gloire à Dieu. Mais si t'es marié, pense à l'autre. Si l'autre, c'est pas encore mort, les deux, c'est supposé être ensemble pour un temps, ils peuvent se séparer, sinon, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous n'êtes pas capable de vous retenir. Vous avez le besoin. Il ne nous juge pas face aux besoins dans ce verset-là. C'est normal d'avoir besoin. Le péché, c'est de laisser Satan d'utiliser cette situation-là pour venir vous faire tenter dans le sexe, parce qu'il sait que j'en avais une faiblesse dans le sexe. Il va s'arranger. Ta femme a dit, on se prive. Puis le gars, ben lui, ça étend plus ou moins. Pour un temps, c'est correct, mais pas pour tout le temps. Puis si ça s'étire trop, puis les besoins sont là, le diable le sait. Le diable va mettre des idées dans la tête. Oh, et donc bien belle, la voisine. Oh, je pourrais aller voir une prostituée. Oh, je pourrais écouter des films porno. Oh, je pourrais, tu sais, tout ce que l'ennemi, il nous tente à cause qu'on y sait qu'on est incontinent. Quelqu'un qui est continent, ça y tente jamais. Gloire à Dieu. Il sera pas tenté là-dedans. Le diable nous tente dans nos points faibles. Il nous tente pas dans nos points forts. C'est quand tu es incontinent qu'il, lui, il sait. Puis si tu as des besoins, il le sait, puis il va s'arranger de mettre des situations dans ta vie puis des pensées. Pour nourrir ça, pour t'amener à pécher contre Dieu. C'est pour ça que faut que tu comprennes ton conjoint puis ses désirs, puis que juste pour un temps que tu pries, pas laisser le diable mettre une tentation dans vos convoitises charnelles. Ça pourrait être sa nourriture. Des convoitises charnelles, là, on osse toute la boisson. Toutes nos consommations, nos habitudes, l'ennemi, il sait nos points faibles, puis il essaye de nous attirer là-dedans, puis nous garder captifs là-dedans. Il y a d'autres manières qu'il nous attaque. L'ennemi, on peut être attaqué par des tribulations. Quand ça va mal dans votre vie, c'est l'ennemi qui est en train de vous attaquer. On va voir. 1 Thessaloniciens 3. Il y a eu une grosse épreuve dans la ville de Thessalonique. Une grosse épreuve. Puis ça allait énerver Paul. De savoir que les chrétiens de Thessalonique étaient en train de vivre cette grosse épreuve-là. Puis là, il a envoyé Timothée pour aller vérifier comment se comportait la foi des chrétiens dans cette grosse épreuve. Là, ça dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile du Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Là, il y a quoi de grave, de tribulation grave qui est en train de se produire. Puis là, à cause de ça, il a envoyé Timothée pour les exhorter et les encourager à persévérer dans la foi, malgré cette grande tribulation-là qui est en train de vivre dans cette ville-là. Car vous savez, vous-même, que nous sommes destinés à cela. On est destinés aux tribulations. Parce qu'on est en guerre contre le diable, puis le diable, il nous rentre dedans continuellement. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, là c'est Paul qui parle en anglais, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Il est en train de dire, je le sais que vous venez de vivre d'une grosse tribulation dans votre ville. Puis là, ça m'a inquiété, ça m'a donné une crainte. J'ai envoyé Timothée pour vous encourager, pour vous exhorter dans la foi. Puis vous savez, je l'avais déjà dit, qu'on est appelé à cela aux tribulations. On n'est pas appelé à l'abondance, puis que tu es au-dessus de toute souffrance. Contraire, on est appelé aux tribulations. Fait que quand ça nous arrive, faut pas rester surpris, c'est naturel que chrétiens vivent des problèmes. Là, il dit, j'étais tellement impatient, j'avais hâte de le savoir au verset 5, que j'ai envoyé pour m'informer de votre foi, puis j'avais une crainte que le tentateur, le diable, ne vous ait tenté dans cette situation-là, puis que là, notre travail a été vain parce que tout le monde a abandonné. Ça lui a fait une crainte à Paul, il avait peur que tout le monde abandonne tellement que c'est agréable dans cette ville-là. Puis que tout le travail que Paul investit pour amener ces hommes-là à Jésus soit pour rien, parce que tout le monde aura abandonné. Puis c'est le tentateur, c'est le diable qui tente quand ça va mal. La tribulation, ça ne veut pas dire que c'est le diable qui l'a fait, là. Ça dit que le diable peut te tenter quand t'en vis une. Quand t'en vis, quand ça va mal dans ta vie, là, c'est pas toujours le diable. Dieu permet que les choses nous arrivent. On a des situations difficiles. Que ce soit la mort d'un proche, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes dans la santé, des problèmes au travail, des problèmes dans notre couple, des problèmes avec la justice. Des problèmes parce que t'es chrétien et tu te fais rire de toi et tu te fais persécuter. Peu importe la tribulation, peu importe le trouble, la misère, les souffrances que tu es en train de vivre, fais attention, tu sais que tout ce qui peut nous arriver, qu'on est appelé à en vivre plein de problèmes comme ça, puis fais attention que le diable ne vienne pas te tenter pour te faire débarquer, pour te faire lâcher le Seigneur, pour te faire dire, ben moi là, je suis tanné, j'en ai assez vu. Adios, amigos, moi je lâche l'être chrétien. Parce que c'est trop tough. C'est trop dur. Là, on ne les vit pas réellement encore à 100%. On ne vit rien comme tribulation ici. Il y a des pays actuellement que les gens se font mettre en prison, ils se font battre, ils se font voler leur maison, ils perdent leur bien. Ils ont passé 20 ans de temps à se ramasser une maison, comme nous autres, on essaie d'en ramasser une. Puis il y a une grosse tribulation, il se fait acheter de voir parce qu'il est chrétien, il perd sa job, perd sa maison, ou des bandits viennent prendre sa maison. Au Mexique, là, je connais un chrétien là, qui vit ici au Québec en réfugié. C'est un évangéliste, le gars, il parle l'espagnol. Il vivait au Mexique, puis dans la ville où il était, où il avait sa maison, une maison qui avait payé 40 000 piastres, puis au Mexique, l'argent n'est pas facile à gagner quand tu gagnes une piastre par jour. Puis Dieu il avait permis qu'il y ait une maison, puis le cartel de la drogue était dans cette ville-là, puis le cartel de la drogue, eux autres, comme nous autres, la pègre, ou appelez ça, la pègre, ou les noms de, je me rappelle pas tous les noms de toutes les grosses organisations, les Hells Angels, ou n'importe quoi, là. Il y avait un cartel, eux autres, ils appellent ça un cartel, un gros réseau de criminels qui étaient dans ce ville-là. Puis lui, ce gars-là, c'est un évangéliste qui parle à tout le monde. Puis il est allé, il évangélisait, puis il parle du Seigneur à tout le monde. Le gars du cartel de drogue, il est allé le voir, puis il a dit, là, tu vas travailler pour moi, puis tu vas parler pour que le monde même. Puis là, il voulait être installé comme pourrait s'installer dans la ville, peut-être, je ne sais pas s'il voulait avoir un poste important comme maire ou quelque chose. Il voulait que l'autre travaille pour lui. Lui, il a dit non. Qu'est-ce que ça a fait? Des persécutions. Il a été presque mis à mort. Puis là, il est obligé de fuir sa ville, abandonner sa maison, ses biens, lui et sa famille, puis vivre. Ils sont plus avec leur famille qu'il y avait au Mexique, là. Ils vivent ici, à Montréal. Puis là, il faut qu'il refasse sa vie en tant que réfugié. Il faut qu'il apprenne une nouvelle langue, puis il faut qu'il s'incorpore à se trouver un emploi, puis tout le kit, puis continuer à servir le Seigneur comme qu'il peut. Là, il évangélise à la station de radio CKZW. Il a une émission à 3h d'après-midi. Verdad que transformant, qui veut dire la vérité qui transforme, le titre de son émission. Mais c'est pour dire des tribulations, il a tué ça. Ça, ça en est un exemple. Puis là, ce gars-là, il perd tout. Mais l'ennemi, ne pensez-vous pas que l'ennemi il en aurait pas mis des idées dans la tête de dire c'est ça d'être chrétien, moi je lâche tout. Ou je vais profiter de ce que ce cartel de drogue-là, c'est du monde qui ont du pognon, je me casserai pas la tête financièrement, je vais accepter les montants d'argent qu'ils me donnent, puis je vais être sécurisé par les criminels, puis en même temps, mais je vais avoir de l'argent de lousse payer mes fins de mois. On peut pas côtoyer le péché. Les tentations que le diable peut nous donner, c'est le diable qui aimait pour nous faire tomber et abandonner notre marche vers le chemin qui est le chemin de sanctification puis de faire porter des fruits pour Dieu. Des embûches dans notre ministère, ça se peut-tu qu'on ait des embûches dans nos ministères, dans la manière de servir le Seigneur, puis on a des problèmes, souvent on a des problèmes entre chrétiens, puis on a avec les gens qui nous entourent. Puis Paul, dans 1 Thessaloniciens 2:18, il nous dit, « Nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Ça veut dire que ça n'est une place où tu vas avoir des problèmes dans ton ministère. Des choses vont mal, ton auto casse. T'as pas prévu, là. Ça casse juste comme tu t'en allais faire quelque chose pour Dieu. C'est des empêchements du diable, ça. Il y en a plein de situations, là, si on fouillerait pour essayer d'en sortir une liste, des raisons que le diable nous attaque pour nous empêcher de faire des choses pour l'œuvre de Dieu, ou nous mettre des bâtons dans les roues pour que ça aille mal. Que tu vas faire de quoi sur ton site Internet, tu es en train de composer un bon message, tu n'as pas fait de save, ton ordi plante, puis là, tu as tout perdu ton message que tu as préparé. Mais ça, c'est un exemple, mais des exemples de problèmes pour t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Mais le diable peut en faire des troubles comme ça. Il y a des affaires que tu n'as pas le choix. Comment est-ce qu'il a fait pour que Job... Comment est-ce qu'il a fait pour que Job parle tous ses enfants par un tremblement de terre dans une maison, tout est tombé, ils sont tous morts. C'est le diable qui a fait ça. Oui. Il y a du pouvoir de faire des choses. Puis la maladie qu'il y a eu dans son corps, des empêchements pour faire ce qu'il avait à faire, c'était une attaque directe du diable que Job a eu. Puis une maladie à grandeur de son corps couvert d'ulcères. Fait que, puis tous ces animaux s'étaient tous fait voler dans le même temps. Peut-être dans la même journée. Il y a des méchants qui sont venus, ils ont tous ramassé les animaux, il y a toute sa maison s'est écroulée sur ses enfants, tout le monde sont morts dans le même temps, puis il y a une plaie qui est venue sur son corps, à grandeur de son corps en même temps. Des attaques du diable. On pense que le diable ne peut pas rien faire. Oui, le diable peut en faire beaucoup, mais c'est dans le but, Dieu permet ça, dans le but de t'éprouver. Il permet ça. Comme qu'il a permis que toutes les 11 apôtres, sont tous morts, martyrisés. Comme qu'il a permis que Jésus soit mort, martyrisé. Comme qu'il a permis qu'il y a plein de chrétiens qui sont morts dans l'arène, dévorés par des lions à Rome. Comme qu'il a permis que plein de chrétiens ont perdu leur maison. Dans ceux qui habitaient à Jérusalem, puis il y a une grosse persécution à Jérusalem. Tous, sauf les 12 apôtres, ont quitté Jérusalem. Ils ont tous perdu leur bien, leur maison, leur job, leur famille. c'était des attaques du diable qui les attaquent. Dieu permet, puis Dieu, vous allez voir dans les quelques versets pour faire la conclusion, il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il n'y a pas de plus grand combat que la force que Dieu peut nous communiquer. Je n'aurai pas de choses plus difficiles à passer à travers que qu'est-ce que Dieu est capable de vous donner comme force pour passer à travers. Parce que souvent, on le prend mal, le verset qu'on va lire, vous allez comprendre pourquoi. Dans Éphésiens 6, 13, je l'ai lu au début de la réunion, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Prenez les armes pour résister puis être ferme. Fait qu'il n'y aura pas rien qui va nous arriver qui est au-dessus de la force que les armes peuvent te donner. C'est de même qu'il faut prendre ça. Ça veut dire que si vous chutez dans une affaire, c'est parce que vous n'avez pas pris l'arme qu'il fallait pour pouvoir combattre ça puis rester debout. Parce que si on prend ce que Dieu nous donne tout le temps, on va toujours être vainqueur. Mais je sais que, humainement parlant, on oublie tout le temps de se défendre. On oublie de prendre les armes. On n'invoque pas le Seigneur. On réagit charnellement. On tombe dans des pièges. Parce qu'on ne s'équipe pas. Mais si on s'équiperait, vous allez voir avec d'autres versets, on aura la victoire. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation, épreuve, attaque, peu importe la manière, il n'y a aucune épreuve, aucune attaque qui vous arrive là, qui n'est pas à la hauteur d'un humain. Il n'y a rien de surnaturel dans ce qui vous attend. Dieu y est fidèle, puis il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu! Il dit, il n'y a rien qui va t'arriver au-delà de ce que tu es capable de supporter. Puis quand tu vas en vivre des combats et des épreuves, mais il va aussi te donner un moyen de passer à travers et que tu puisses t'en sortir. C'est ce moyen-là qu'il faut trouver, frères et sœurs. Si on ne le cherche pas, si on ne cherche pas le moyen du Seigneur, on ne l'aura pas. Dieu nous en met des moyens, comme qu'il a mis toutes ses armes. Il dit, prenez-les. Tu veux être vainqueur dans ta vie, prends-les et utilise-les. Un autre verset dans la même pensée, Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez les armes, porte de sortie, soyons à l'écoute de la voix de Dieu, prenons toutes ces armes, puis à tous les jours luttons efficacement, afin d'être debout quand Jésus va revenir. Si je néglige, puis je ne prends pas ça au sérieux, là, j'appellerai pas ça des chances, ni des pourcentages, mais il y a un danger qu'on fasse partie de ceux qui ont abandonné la foi. Parce que tu peux pas passer à travers sans la force de Dieu. Ça dit que Dieu va te donner la force pour échapper. C'est ça que ça dit, là. Verset 21, chapitre 21, verset 36. Afin que vous ayez la force. Vous voulez être plus fort dans le Seigneur? Veille, puis prie, prends ses armes, puis cherche la direction de Dieu, puis tu vas l'avoir, la force, tu vas être capable d'échapper à toutes les choses que Jésus a dit qui étaient pour arriver. Des tremblements de terre, des pestes, des famines, des faux prophètes, des signes dans le ciel, dans l'une, dans les étoiles. Ça va être une tribulation comme qui n'est jamais arrivée dans toute l'histoire de l'humanité, dans la guerre qu'il va y avoir quand les armées vont investir Jérusalem. Peut-être une attaque nucléaire. Qu'est-ce qui arrête plus pire que ça? Puis même que ça l'arrive, là, notre vie sera plus pareille dans ce monde, frères et sœurs. Même s'il y aurait qu'un dixième de la planète qui serait détruit par les bombardements nucléaires, ça serait un dixième de trop. Parce que tout le reste de la planète va être ébranlé, puis les conséquences de tout ça, ça va être grave sur la planète. Puis si on ne va pas chercher les forces que le Seigneur veut nous donner, il veut nous les donner, ces forces-là. Si on ne va pas les chercher, vous ne serez pas capable de passer à travers puis de rester dans la foi jusqu'à la fin. Si on ne va pas chercher la force pour passer les maigres souffrances du moment présent, si on ne va pas chercher la force pour passer les maigres tribulations qu'on passe présentement, puis si vous n'êtes pas capable de passer à travers, vous ne serez pas capable de passer à travers des grosses qui vont arriver. Il faut que notre force spirituelle, elle augmente, frères et sœurs, puis c'est pas des farces que ce que je vous dis là. Puis le combat spirituel, si on veut se fortifier, faut réaliser qu'on est en guerre, puis réaliser notre rôle dans ce monde, puis de résister contre ce que le diable veut faire pour qu'on se fortifie dans le Seigneur. Si on est toujours en train de se faire marcher dessus, puis de se faire piétiner, puis on prend jamais notre rôle au sérieux, puis de semaine en semaine, de mois en mois, on se fait dévorer par l'ennemi, il nous vole les promesses de Dieu, il nous vole les bénédictions de Dieu, puis on est comme un sel sans saveur qui se fait piétiner aux pieds des hommes, parce qu'on a perdu notre saveur. On passera pas à travers, frères et sœurs. Moi, je crois que Dieu nous a déjà tout donné. Juste le fait qu'il nous révèle tout cela, là, il nous le donne déjà, ce qui est le moyen nécessaire pour être capable d'avoir la force de se fortifier dans la veille, dans la prière. La veille, c'est réveil, veille. C'est de se tenir réveillé. C'est d'être à l'écoute, d'être en train de comprendre ce qui se passe, pas endormi. Réveillé, prier, prendre les armes, combattre. Là, c'est fini, là. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Fini le temps de trembler. Dieu se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Puis du cœur de Dieu, le cœur du cœur des justes s'élève un chant. Le cri joyeux de la victoire. La victoire, tu peux la crier quand t'as eu la victoire dans ta vie. Quand Dieu s'est levé. Puis quand tu proclames pour l'avoir, ces victoires-là. Pierre, dans 1 Pierre 5,9, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde qu'on a un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous les frères dans le monde. Tout le monde vit ces mêmes tribulations-là, puis il y en a qui en vivent des pires. Mais on a toutes les mêmes souffrances, puis si on a veillé, à réaliser, puis à résister avec une foi ferme. Quand Jésus, comme je l'ai déjà dit, mais je vais revenir avec tout ça, Jésus, quand il a combattu contre le diable, sur quoi qu'il se basait?
La Bible.
Il est écrit. Puis si on commence pas à parler comme ça, frères et sœurs, là, on n'aura pas de coup d'épée. Quand tu donnes un coup d'épée là, à l'ennemi, il est écrit. Ça, là, le fait que ça soit écrit puis que tu le dis de ta bouche avec la foi, il est écrit. Ça, c'est un coup d'épée qui bloque un coup de l'ennemi, puis un coup d'épée qui frappe l'ennemi pour qu'il s'en aille. Si on n'apprend pas à invoquer les versets de la Bible, il est écrit. Tao! Il est écrit. Tao! Mais là, si on le prend pas, on le fait pas, on se fait rentrer dedans puis démolir semaine en semaine, puis si on commence à se lever, puis on le fait. Il est écrit, puis on va voir des guérisons, des délivrances. La puissance de Dieu va s'accomplir. C'est pas que la puissance de Dieu n'est pas là. C'est qu'on n'a pas la foi pour exécuter ce qu'il nous demande. Parce qu'il nous le dit de le faire. Il nous a tout mis. Tout est là. Dans Matthieu 8, 16, c'est la même idée. Il y en a emmené plein de démoniaques auprès de Jésus. Mais il chassa les esprits par sa parole. Puis il guérit tous les malades. La parole, là, quand tu la prononces, là, il est écrit, clair. Les esprits, ils sortent. Satan recule. Il a peur de la vérité et la puissance de l'Esprit de Dieu. Hallelujah! On veut-tu marcher dans la victoire, frères et sœurs? Mais commençons, on est déjà dans le combat, mais continuons à combattre, saisissons les armes, prenons ça au sérieux, prendre un temps de prière, tous les jours, minimum un temps. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, je prends un temps de te lever. Paul, Pierre, à la 9e heure, il s'en allait au temple pour prier. À 6h le soir, il y avait une réunion de prière. Il y en a le matin, le soir, le midi, la nuit. Prier sans cesse. Daniel, 3 fois par jour. Fait que des raisons de prier, là, si vous n'en avez pas, là, ben, je peux vous en faire une liste. J'ai un cours là, que Dieu a permis que j'aille monter. Là, un guide de prière. Si Dieu le permet, un jour, je vais le faire. Tous les sujets du Nouveau Testament que Jésus nous dit, ou les apôtres, priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça. Il y en a des sujets pour nous tenir occupés. Pour se bâtir des grosses listes de prières, afin qu'on apprenne à prier avec l'intelligence, puis de discerner avec notre intelligence les besoins qui sont déjà dits de prier pour. Puis quand ça nous est dit de prier pour ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu de nous exaucer. Sinon, on ne nous demandera pas de prier pour une affaire s'il n'y a pas l'intention de nous exaucer. Comment je peux savoir si c'est la volonté de Dieu de prier pour une chose? Mais c'est-tu écrit dans la Bible de prier pour ça? Si oui, c'est la volonté de Dieu que tu pries pour ça, puis tu vas t'attendre à ce que Dieu t'exauce. Amen. Prions. Père Seigneur, face à l'ensemble des révélations de ta parole, Seigneur, que tu nous enseignes sur le combat spirituel, sur la subtilité de l'ennemi qui essaie toujours de venir nous attaquer dans nos points faibles. Donne-nous d'être réveillés, Seigneur, qu'on puisse se tenir debout dans prière pour puiser ta force, puis dans tes armes, puis commencer à prendre autorité de ta parole, puis de proclamer les choses pour combattre l'ennemi, Seigneur, qu'on puisse rester ferme, inébranlable, solide. On va résister quand ça fait mal, mais on va se lever, puis on va être debout, puis on va rester ferme. Nous voulons être debout lorsque tu vas venir nous chercher, Seigneur. Apprends-nous le combat, puis apprends-nous à le vivre, puis à persévérer là-dedans, Seigneur, jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrivera dans ce monde. Fait qu'on remet nos vies entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.